en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dom Mabillon cherchait avec cœur et raison l'amour de la vérité. Moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, ça c'est pour les connaisseurs, le nom de Dom Mabillon est attaché à celui de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés où il passa 50 ans de sa vie. Il faut s'imaginer l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés alors comme un centre culturel d'une incroyable fécondité rayonnant sur toute l'Europe. Son nom est également attaché à l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans un mur de laquelle ont été déposées ses cendres, unies à celles de Descartes et de Montfaucon. Si son nom pour des milliers d'étudiants du quartier latin est associé à celui de la station de métro parisien Mabillon, qui se souvient qu'il est l'inventeur de la science historique dans le siècle de Louis XIV, qui le qualifiait d'ailleurs de l'homme le plus savant du royaume. Pour nous parler de cette figure de l'érudition, qui fut aussi membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à partir de 1701, pour en dresser le portrait dans l'émission En habit vert, habit qui n'existait pas sous l'Ancien Régime, au temps où les académies étaient appelées Académie Royale des Beaux-Arts, Académie Royale des Sciences. J'accueille aujourd'hui à Canal Académie Odon Hurel, chercheur au CNRS et au Laboratoire d'études sur les monothéismes. Odon Hurel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de diriger l'édition du livre « Le moine et l'historien Dom Mabillon, œuvre choisie », précédé de la célèbre biographie de Mabillon par Don Leclerc. L'ouvrage est sorti chez Robert Laffont dans la célèbre collection Bouquins. Vous avez aussi tout récemment participé de près à l'organisation du colloque « Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle » qui s'est tenu le 8 et 9 décembre dernier à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dans le cadre du tricentenaire de la mort de Mabillon en 1707. Alors, Odon Hurel, Mabillon était un peu plus qu'attaché à l'ordre des bénédictins. Il avait fait profession de foi, l'abbaye bénédictine de Reims en 1654 et à partir de là, il a été envoyé dans plusieurs abbayes, puis il a été accueilli en 1664 à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Odon Hurel, à quoi ressemblait donc l'Europe bénédictine du XVIIe siècle ?
Une Europe bénédictine en plein renouvellement. En plein renouvellement par rapport aux structures monastiques de la période médiévale. C'est-à-dire que donc depuis la fin du XVe siècle et ensuite après le Concile de Trente, se développent des congrégations bénédictines de type centralisé, régional ou par État. Et c'est le cas de la congrégation de Saint-Maur en France et de la congrégation de Saint-Vannes en Lorraine, qui ont cette nouvelle physionomie du monachisme où les monastères ne sont plus indépendants les uns des autres, mais unis et hiérarchisés avec une organisation centrale. Voilà.
Elle constituait donc un formidable réseau. Peut-on dire que ces moines construisaient ou participaient à la République des Lettres ?
On le dit a posteriori.
Oui.
On le dit a posteriori. C'est évident que pour eux, il s'agissait d'abord de réformer la vie monastique, de relire la règle de Saint-Benoît, d'en adapter un certain nombre de principes au XVIIe siècle, à la période moderne, et au contexte politique, au contexte économique, au contexte culturel. C'est surtout sur ce plan-là. Il se trouve que le recours aux origines du monachisme, l'intérêt pour les bibliothèques, pour la transmission des manuscrits, pour la lecture de ces manuscrits du monachisme bénédictin médiéval, fait qu'effectivement, ces moines ont puisé en fait, dans ce passé leur identité. Et à la suite de l'humanisme, se sont mis à étudier de façon très précise tout cela. Et comme ils étaient détenteurs de ces archives, de fait, ils ont pris une place dans la République des Lettres. Enfin, ils, une minorité. Hein.
Une minorité
d'entre eux. Hein. C'est pas tous. Hein. Mm. La majorité fait, du travail de moine. Enfin,
oui.
Mabillon...
En quoi consistait alors le travail de moine, justement, en quelques mots ?
Simplement partager sa vie entre la vie commune, la vie contemplative, les offices et une pastorale de proximité, comme on dirait maintenant, c'est pas très joli, mais ce qui veut dire effectivement encadrer aussi un petit peu des fidèles, encadrer des religieuses, des moniales, etc. Et donc le livre est là pour nourrir d'abord une spiritualité. Et c'est seulement certains d'entre eux qui vont glisser vers l'histoire. L'histoire.
Alors c'est ce qu'on va voir avec justement le formidable parcours de Mabillon, de Don Mabillon. Pour avoir juste encore une petite idée de l'importance de la congrégation de Saint-Maur, ça représente à peu près, on peut dire, un maillage d'abbayes, mais en nombre.
Oui, enfin,
c'est de l'ordre
c'est,
de.
C'est tout simplement. En France, 190 monastères à peu près au début du XVIIIe siècle, à la mort de Mabillon, sachant que c'est une congrégation qui est fondée aux alentours de 1618-1620. Mmh. Donc on imagine, on voit la rapidité de cet essor. Une chose extrêmement importante, c'est qu'il ne s'agit jamais de fondation de monastères, mais de réformes de monastères qui ont déjà une histoire pluriséculaire, une histoire médiévale. C'est-à-dire que ce sont des moines qui... Alors, il y a des concordats qui sont entre les moines qui sont dans le monastère et les moristes qui arrivent. On donne des pensions aux moines anciens qui sont là. Et puis, le monastère passe dans la juridiction de la congrégation de Saint-Maur. Et à ce moment-là, il faut que pendant quelques années, se joue toute cette intégration des nouveaux moines dans le monastère. Et là, une fois de plus, pour gérer, pour prendre connaissance et pour gérer le temporel du monastère, on se jette dans les archives, évidemment. C'est des archives vivantes que Mabillon étudie et ses compagnons. C'est pas comme nous lorsqu'on fait de l'histoire monastique, où c'est souvent des archives mortes, en fait. Hein. Là, il est complètement à l'intérieur. Et donc, il faut prendre connaissance de l'histoire de chacun des monastères pour pouvoir s'y intégrer. Et d'où, la réforme de Saint-Maur, c'est ça. Et c'est divisé, donc 190 monastères sur toute la France, sauf les espaces clunisiens. Cluny n'a jamais voulu, malgré des tentatives, et il n'y a pas eu d'accord possible. Donc, à part Cluny, c'est 190 monastères divisés en 6 provinces, avec dans chaque province un noviciat, une maison. Bon, Saint-Remy de Reims pour la province de France, là où Mabillon a fait ses études. Des monastères d'études dans chaque province. Donc, ce qui fait qu'effectivement, le vœu de stabilité ne se fait pas pour un monastère donné. Ça, c'est une grande différence c'est la nouveauté.
C'est la mobilité avant l'heure.
C'est la mobilité avant l'heure, tout à fait. Mais se fait dans le cadre de la congrégation, dans son ensemble. C'est-à-dire que les moines peuvent être amenés à aller, pas se promener, mais à aller dans différents endroits. En particulier parce que, par exemple, les enseignants, les prieurs sont nommés par l'échelon central, le chapitre général. Il y a toujours les abbés commendataires. Il est évident qu'ils ne pouvaient pas être supprimés dans la France de Louis XIII ou Louis XIV. Donc, les abbés commendataires sont là. Et les prieurs sont nommés pour 3 ans, renouvelables une fois dans le même monastère à la suite, c'est-à-dire 2 mandats de 3 ans seulement. Ça fait 6 ans et après, il faut qu'ils aillent ailleurs, quitte à redevenir prieurs, si, pas s'ils le souhaitent, mais si on leur dit d'y aller, puisque la vie monastique, c'est l'obéissance.
Alors, justement, nous avez dit tout à l'heure que certains de ces moines allaient glisser vers l'érudition, vers l'histoire. Alors, est-ce que c'est normal qu'un moine bénédictin comme Mabillon se consacre justement à l'érudition ? Qu'est-ce que Dom Mabillon avait de plus que les autres, que les frères de sa communauté, pour justement glisser sur ce qui va devenir l'histoire.
Bien sûr. Il y a un système dans la congrégation de Saint-Maur. Très tôt dans les années 1640, les premiers supérieurs majeurs considèrent que l'histoire est essentielle, l'histoire de chacun des monastères est essentielle pour former les jeunes moines.
Pour former à l'esprit de la congrégation.
À l'esprit de l'ordre Saint-Benoît, à l'esprit bénédictin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, vous avez des ordres récents, très vigoureux, les jésuites, les bancs. Vous avez d'autres familles monastiques ou religieuses et qu'il y a un besoin de recherche d'identité. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, vous avez beaucoup de travaux, beaucoup de moines écrivent sur qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'ordre.
Est-ce que ça répond à une rivalité ou vraiment à un retour sur... C'est difficile à...
Il peut y avoir la concurrence, je crois qu'il y a une volonté, ça entre dans cette recherche d'un retour, essayer plusieurs siècles après ce qu'est la vie monastique, ce qu'est la lecture de la règle de Saint-Benoît. Et donc très tôt, c'est inscrit de façon très officielle. Donc il faut faire l'histoire de l'ordre, il faut reconnaître les vies des saints de l'ordre, etc. Et jeune Mabillon est repéré comme quelqu'un qui a des dons particuliers, non pas forcément pour être historien, parce que
c'est pas son but.
Enfin, voilà. C'est pas. Mais pour
parce qu'il sait lire,
parce qu'il sait étudier, parce qu'il a des talents pour ça. Donc, comme d'autres ont des talents pour gérer du temporel et devenir
il est tout de suite repéré.
Il est repéré. Il est repéré, et c'est ainsi qu'il arrive progressivement. Vous l'avez dit en introduction, qu'il est d'abord envoyé à Corbie, et c'est intéressant parce que Corbie est un haut lieu du monachisme carolingien. Et donc du monachisme de l'histoire de France aussi. Et il fait son premier travail à Corbie.
Oui, c'est. C'est le début des bénédictins.
Il écrit une liturgie propre pour les saints fondateurs de Corbie. C'est-à-dire que là, on voit
il
déjà.
Il est aussi dans l'origine, le choix qu'il a. Oui, on ne sait pas si c'est lui qui l'a choisi.
Non,
mais
on lui a imposé. On lui a plutôt imposé de le faire. Et on voit comment, tout de suite, l'histoire. Et la liturgie, c'est-à-dire un des fondements de la vie monastique, sont liés dans son œuvre et dans la conception même de l'histoire de la congrégation de sa mort au départ. Voilà, et c'est comme ça qu'il arrive à Saint-Denis, et puis on s'aperçoit qu'il est vraiment très doué, et il arrive à Saint-Germain-des-Prés, qui est le haut lieu de fabrique de cette histoire en marche.
Alors, en quoi consiste ce travail d'érudition ? Le travail d'érudition d'un jeune moine repéré, comme ça, qu'est-ce qu'on va lui faire faire concrètement ? Et on va l'envoyer dans les bibliothèques, mais que va-t-il faire ?
Oui, on est très prudent. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas faire ce qu'il veut, évidemment, et on ne le laisse pas partir à droite et à gauche. On commence par... en tant que jeune, il se forme auprès de plus anciens. Hein, c'est une organisation collective. C'est d'ailleurs de très bonnes méthodes, même pour... j'en parlais encore à mes étudiants. Hein, c'est une très, très bonne méthode. C'est-à-dire que le jeune va relire des épreuves, va faire des index, va apporter des petits éléments, etc. Donc, il y a une formation sur le tas, comme ça. Bon, sauf qu'avec ma Billon, il est particulièrement doué, donc ça va très
vite.
Ce qui fait qu'il arrive en 1664 pour aider à l'édition de Saint-Bernard, et tout de suite, puisque le don Chanteloup décède, il se retrouve en charge de l'édition des œuvres de Saint-Bernard. Mais voilà, donc il y a ce côté de formation très précise et très très dirigé, en fait, hein, très dirigé. Bon, très vite, évidemment, c'est le travail sur des manuscrits.
Donc, il y a un travail de dépouillement, on pourrait dire, de manuscrits, et puis il y a un travail d'édition.
Voilà, exactement.
Tous ces actes, alors pour toutes les chartes, les vies des saints, enfin, vous allez peut-être vous allez nous en parler, bien sûr, mais c'est la base de ces documents. Ma question, c'est sur ce travail d'édition, c'est-à-dire pourquoi la nécessité d'éditer, à l'époque, c'était pour communiquer avec les autres congrégations et au sein même de la congrégation, je suppose, puisqu'on est aussi depuis peu dans toute cette découverte de l'imprimerie, même si c'est un siècle, deux siècles avant, ce travail d'édition, il est primordial dans la congrégation de Saint-Maur, là. Et bien ailleurs, je suppose que c'est quelque chose de banal, mais...
C'est quelque chose. C'est le principe. Finalement, c'est un des principaux buts du travail érudit du XVIIe siècle et avant du XVIe siècle humaniste. Hein. Il faut pouvoir produire des sources, les éditer de façon la plus fidèle possible. Donc, cela passe par un certain nombre d'outils, tout simplement, d'outils qui sont le catalogage des bibliothèques. Et pour ce qui est de l'histoire monastique, le fait de cataloguer 190 abbayes, 190 bibliothèques mauristes à travers la France, bon, on s'imagine bien que ça fait amener une somme de manuscrits médiévaux, de manuscrits anciens, qu'ils soient documents historiques, mais qu'ils soient aussi des textes patristiques. Et que très vite s'organise ce travail collectif pour pouvoir aboutir à ce que les jésuites avaient déjà fait en partie, ou faisaient, ce que d'autres faisaient, hein, d'autres érudits, à l'édition de textes majeurs, aussi bien pour l'histoire de l'ordre que pour les pères de l'Église. Hein, les éditions Mabillon participent à l'édition des œuvres de Saint-Augustin, par exemple. Hein, et l'essentiel des pères latins, puis certains pères grecs, Jean Chrysostome par Montfaucon au XVIIIe siècle, autre académicien, un des rares académiciens, sera au cœur de ce travail, en fait. Hein. Voilà.
Alors, quelle pierre, justement, apporte à Mabillon dans ce travail d'édition, cher aux bénédictins? Il a prôné, défendu une méthode. Et sur quel type de sujet?
Alors,
il y a deux points dans sa démarche.
Oui, il y a plusieurs points. Alors, pour lui, les méthodes sont essentielles. La définition de méthode est absolument essentielle. Et finalement, l'espèce de clin d'œil du début du 19e siècle, lorsque Descartes se retrouve mêlé à Mabillon, à Saint-Germain-des-Prés, en 1819, est tout à fait significatif. Mais ça, c'est a posteriori, mais c'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'il y a ce souci de méthode. Mabillon, pour lui-même d'abord, veut se définir des méthodes de travail. Ça, c'est quelque chose d'évident. Ces méthodes de travail, on a l'impression qu'il les livre au public lorsqu'il y a des polémiques.
Mmh. En fait, ah oui, mais
à chaque fois, c'est la même chose. On verra, le De Re Diplomatica, c'est une œuvre fondatrice qui répond en gros à une polémique. Les Acta Sanctorum donnent lieu à des polémiques. Mabillon écrit ce qu'il a voulu faire et pourquoi il a voulu
faire.
Il se justifie à chaque fois et il se justifie par la définition de méthode. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est très vite, c'est quelqu'un qui se passionne pour l'histoire. Monastique, qui s'inscrit dans une chronologie qui dépasse le monachisme en interne, je dirais, mais qui concerne l'histoire générale. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement moderne pour ça. C'est-à-dire qu'on reparlera peut-être, il ne veut pas s'enfermer dans l'histoire monastique pour l'histoire monastique, en fait. Voilà.
Il réussit aussi une belle mise à distance de l'histoire du monachisme bénédictin, parce que là, il est très critique imposant cette méthode.
Bien sûr. Je crois qu'il fait faire un bond à l'histoire monastique, qui ne sera pas toujours suivi, même après, c'est-à-dire que même dans les siècles qui suivent. Donc, il opère une véritable distanciation entre l'histoire monastique traditionnellement faite par des moines pour des moines, finalement, et l'histoire monastique qui devient, au même titre que l'histoire d'autres institutions politiques, etc., mais qui forment un tout, effectivement.
Pour qu'on ait une petite idée de cette méthode, je suppose une méthode d'indexation, de calcul chronologique, pourquoi c'était compliqué? Pourquoi est-ce que c'était pas clair? Parce que justement, il a mis de l'ordre dans tout ça. Pourquoi y avait-il besoin d'ordre, justement?
Mais finalement,
c'est une évidence, on travaille dans des classifications. Et,
Le meilleur exemple, ce sont les Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, parce que c'est un exemple tout à fait évident. Lorsque Mabillon décide de faire, enfin, lorsqu'on lui dit de faire, par obéissance, il fait les Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, c'est-à-dire les vies des saints de l'ordre de Saint-Benoît.
Donc
on voit vie des saints, on voit ordre de Saint-Benoît. Ce projet est très lié à ce que les jésuites d'Anvers bollandistes faisaient, c'est-à-dire les Acta Sanctorum, c'est-à-dire les actes de tous les vies de saints, mais avec une visée universelle, une portée universelle et non pas sectorielle, on dirait que les bénédictins ou que les... Et Mabillon choisit non pas l'ordre des calendriers, d'un calendrier annuel, c'est-à-dire le 1er janvier, 2 janvier, mais un ordre strictement chronologique à partir de la mort de Saint-Benoît.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il a lu tout ce qui s'écrit autour de lui. Il a lu qu'on disait que dans l'Occident, on avait tendance à penser que tous les saints moines étaient forcément des bénédictins.
Voilà.
Et donc, lui, il commence par dire, on va reprendre les sources, on va éditer les textes, et puis on va bien voir.
Ouais.
Et au bout du compte, au lieu de dire que Saint-Benoît est le fondateur, il dit juste qu'il est un des réformateurs de la vie monastique. Et ça passe pas du tout auprès de certains.
Ça, c'est très, on dirait, provocateur aujourd'hui, parce que c'est vraiment un point de vue novateur.
Novateur. Quoi. Alors, c'est pour les érudits non bénédictins. Mm. Les érudits bénédictins applaudissent à ce travail, évidemment, d'écriture de l'histoire, de redécouvrement. Certains de ses propres confrères sont pas contents du tout, parce que, voilà, ils disent qu'il va faire tomber toute l'image, la grande image du monachisme bénédictin.
Alors, il est obligé de se justifier dans des abrégés.
Voilà, alors il justifie. Alors, j'en ai mis un petit peu dans le livre, parce que c'est important d'essayer de montrer aux gens, même si c'est difficile parfois à lire, de voir comment comment il se justifie, comment il se justifie, voilà, et en particulier dans des brèves règles pour l'histoire qui sont absolument un chef-d'œuvre de méthodologie et de travail historique.
Alors, justement, on a évoqué les Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti. Je ne manie pas le latin comme vous tous les jours. C'est une énorme publication, c'est 9 volumes sur plusieurs années. Cette publication a connu un succès immédiat. Vous en avez un peu parlé. On a vu que c'était pas évident, justement, que tout le monde se prête à se soumettre à cette méthode, à cette règle. Il n'était pas forcément non plus enclin à accepter de ne pas faire que de la géographie. Est-ce que ce que Mabillon a voulu faire et a fait, est-ce que ça a eu de l'importance ou des conséquences dans les autres ordres pour avoir ce recul par rapport à l'histoire de leurs propres ordres ou des saints dont auxquels ils se référaient?
Oui, alors...
Parce que est-ce que ça fait école d'abord en interne dans les monastères, même des ordres différents, et puis, bon, et on le sait pour l'histoire, mais...
Les Acta Sanctorum en eux-mêmes ont eu des conséquences, c'est-à-dire que le fait de décider qu'un saint dont on disait qu'il était bénédictin ne l'était plus avait forcément des conséquences à la fois historiques, dans le domaine des connaissances tout simplement, et à la fois dans le domaine liturgique par exemple. C'est-à-dire que tous les monastères bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur sont obligés de revoir leur bréviaire au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Donc, se fait un travail en particulier sur la façon dont on parle des saints qui sont fêtés, les saints locaux. Donc, il y a forcément eu des conséquences sur la révision de certaines fêtes de saints dans certains monastères. Ça, c'est une chose. D'autre part, l'œuvre de Mabillon, les Acta Sanctorum, et plus largement aussi quelque chose qu'il a écrit qui s'appelle L'avis pour ceux qui font l'histoire des monastères. Mmh. C'est-à-dire qu'il a décrit aussi une méthode pour écrire l'histoire d'un monastère.
Alors justement, est-ce que cette méthode a été appliquée?
Ah oui, elle a été appliquée.
Elle a été
appliquée ailleurs dans la mesure où ce modèle d'organisation du travail érudit a fait école dans d'autres familles religieuses. Et en particulier, d'ailleurs, dans le colloque auquel vous faisiez allusion, il y a un chercheur, une chercheure qui a évoqué ce qui s'est passé dans l'ordre dominicain à la fin du XVIIe siècle, ce qui était que beaucoup de gens ignoraient. Et on se met aussi à demander, chapitre général, demande à chaque maison de faire son histoire et d'écrire son histoire et d'envoyer des notices historiques. Donc on voit que ce travail se généralise à la fin du XVIIe siècle, très vite, et puis touche aussi en particulier les monastères autrichiens, l'Allemagne,
l'Italie,
toute l'Europe est touchée par ça.
C'est un formidable initiateur, là.
C'est un initiateur, c'est un initiateur ou c'est quelqu'un, faut faire attention, faut pas non plus en faire lui aussi un fondateur. Hein. Mm-hmm. Il est dans un milieu donné qui est favorable à l'émergence de quelque chose et lui a cette richesse et ce génie quelque part pour incarner un petit peu ça. Hein. Mais c'est vrai que son positionnement, comme il est très vite reconnu, en dehors du monde monastique et à l'intérieur, son positionnement dans la République des Lettres a permis évidemment la diffusion de tout cela.
Alors, au Don Hurel, vous avez fait allusion tout à l'heure à une œuvre aussi de Don Mabillon, au De Re Diplomatica. Là encore, il y a eu polémique historique, mais pourtant, cette fois, il ne s'agit pas de vie de saint. Alors, de quoi s'agit-il
Ah ben, il s'agit tout simplement... C'est vraiment le Mabillon méthode. Là.
Voilà.
Il se dit, j'ai devant moi un certain nombre de chartes, de titres. Donc, c'est plus des textes littéraires. Ce sont plus des textes littéraires. Ce sont des textes de gouvernance politique, monastique ou pas d'ailleurs, de différentes époques. Et il faut pouvoir les transcrire. Les lire, les transcrire, identifier les personnes, les lieux, comprendre, essayer de savoir si ce sont des vrais, si ce sont des faux,
etc. Donc, il fallait pouvoir décider de la véracité
du document, son authenticité, etc., pour pouvoir tout simplement contribuer à cette écriture de l'histoire d'après les sources. Alors, Il n'est pas le premier à se poser ces questions-là. Seulement lui, grâce en particulier à l'occasion de débats avec un jésuite bollandiste qui s'appelait Daniel Papebroek. Bon, il ne faut pas surestimer la violence des débats. Enfin, c'est des débats intellectuels. Et d'ailleurs, ils s'estimaient beaucoup mutuellement.
Ils ont fini par se tomber dans les bras.
C'est comme avec Rancé, où ils se tombent effectivement dans les bras. Avec Rancé, bon là, c'est un peu différent. Mais donc, il répond et il répond finalement en créant ce document, ce livre, qui va devenir fondateur. Alors là, pour le coup, fondateur d'une science dont l'école des Chartres, évidemment, sera aussi fille au XIXe siècle. Donc là, c'est une œuvre qui
c'est
n'est pas fondatrice.
C'est la fameuse diplomatique.
Voilà, c'est la diplomatique, l'art de lire, de dater, d'authentifier, de transcrire, etc., les textes,
chartes, les chartes, les actes.
Alors, il y aura un nouveau traité de diplomatique fait par des mauristes, toujours dans les années 1750. Et puis après, il y en aura d'autres au 19e, faits par des chartistes, évidemment.
Alors, tout ça intéresse les rois, bien entendu. Et il avait des ennemis, on l'a vu, mais comme vous dites, il avait des ennemis, mais il avait aussi un protecteur célèbre. Odon Hurel, parlez-nous de Colbert.
Colbert est l'un de ceux, comme c'est un homme d'État, évidemment, oui. ça prend une tournure tout à fait particulière. Plus largement, finalement, assez vite. Le réseau bénédictin, Mabillon en particulier dans ce réseau de la République des Lettres, le fait que Mabillon sorte en fait cette histoire d'une histoire interne, ça le pouvoir royal le comprend très bien. Et va évidemment jouer un petit peu de cela pour un certain nombre de missions autour, par exemple, de l'acquisition de livres, l'acquisition de manuscrits. Et comme cela passe en général par des voyages de lettres, des voyages littéraires, que très peu de mauristes font, mais cela étant, Mabillon en fait plusieurs, effectivement, une fois que Colbert a vu que Mabillon est allé... Est allé en Flandre en 1672, est allé dans d'autres régions de France par la suite. Il finance effectivement, il aide le financement de, en particulier du grand voyage en Allemagne. Et ensuite, le pouvoir aidera aussi pour le voyage en Italie pendant 18 mois. Donc, il y a effectivement des liens qui se nouent là avec le pouvoir royal, avec Colbert, et puis ça sera aussi l'archevêque de Reims, ça sera tout simplement Louis XIV. Et l'arrivée, le fait que le règlement de 1701 de la nouvelle Académie royale et l'arrivée de Mabillon, consacre complètement, pas la carrière intellectuelle de Mabillon en soi, pas quelque chose après lequel, évidemment, il pouvait courir. Mais par contre, pour le pouvoir, c'est une vraie reconnaissance, une intégration d'un moine dans une histoire générale, dans une histoire, une vision de l'histoire.
C'est comme ça qu'il entre à l'Académie.
C'est l'aboutissement. C'est effectivement comme ça qu'il entre à l'Académie. Mais il y entre effectivement à la fin de sa vie, en 1701.
6 ans avant de mourir.
Voilà, il y sera présent régulièrement. Il y fait une dissertation. Il y publie dans les Histoires et Mémoires de l'Académie. Il publie une dissertation sur les sépultures des anciens rois. Donc, une sorte d'hommage finalement à Louis XIV, une sorte de remerciement un peu. Voilà, je crois que c'est
l'Académie des Inscriptions à les Belles Lettres à l'époque a à peine 40 ans.
Et tout, voilà, en plus, elle est assez jeune, renouvelle en 1701 avec une réorganisation complète. Et après, les Mauristes seront très. Certains seront très liés à l'Académie. Certains seront très liés. Leurs œuvres seront souvent lues à l'Académie. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant à l'Académie des Inscriptions d'avoir accueilli ce colloque et à son secrétaire perpétuel, parce que l'histoire littéraire de la France, le recueil des historiens de France, qui sont une œuvre écrite par les mauristes au XVIIIe siècle, sont parmi les œuvres majeures reprises au XIXe siècle par l'Institut National. Donc c'est tout à fait intéressant, cette reconnaissance progressive de la modernité de Mabillon, tout simplement, je crois.
Thank you. Canal Académie.
De par ses missions d'érudit, il a été amené à beaucoup voyager. Il a donc sillonné l'Europe chrétienne, d'abbaye en abbaye, de bibliothèque en bibliothèque. Alors, dans quel but? Probablement d'acheter des livres aussi, pour le roi, hein, c'est possible. Alors, parlez-nous un petit peu de ses voyages.
Oui, alors,
dont on a des notes.
Bien sûr, dont on a des notes, dont on a des quelques notes au départ, puis des vrais récits qui finissent par être publiés eux-mêmes. On parle de voyage littéraire, oui. C'est-à-dire que Mabillon, ça sera aussi le cas de Montfaucon, ça sera aussi le cas de Don Martin au XVIIIe siècle. En fait, Mabillon part avec un socius, avec un compagnon, ils sont deux, et avec des buts en général précis. Des buts précis, ça peut être dans le cadre de travaux particuliers en cours, à la recherche de manuscrits par exemple. Et donc, il part généralement quelques mois entre le printemps et l'automne. En fait, ça se passe comme ça, évidemment, puisque l'hiver est impossible pour des raisons, on peut dire, de météo, d'une part, mais aussi pour des raisons tout à fait liturgiques, c'est-à-dire qu'il est hors de question que les moines aillent se promener pendant le carême. Alors, il y a une exception quand même, c'est les 18 mois qu'il passe en Italie, entre 1685 et 1686, enfin, à Rome, à Naples, à Milan,
etc.
Beaucoup à Rome, effectivement, ce sont des voyages très importants. Ces voyages sont importants parce qu'ils permettent effectivement de repérer des manuscrits, d'en faire transcrire certains. Il ne passe pas son temps à les transcrire lui-même, il n'aurait pas le temps. Donc, repérer des manuscrits, les faire envoyer parfois, faire transcrire et envoyer des copies à Paris ensuite, qu'il publie dans certains dossiers. Et puis ensuite, ça lui permet de rencontrer énormément de gens, des moines certes, mais aussi des bibliothécaires du duc de Toscane, un tas de gens comme ça. Et là, se crée une sociabilité qui est celle, en fait, de la sociabilité de la République des lettres et de la sociabilité savante. Donc ça veut dire que ces voyages sont importants parce qu'ils créent une notoriété, évidemment. Ils ont des résultats scientifiques précis. Et en plus, ils permettent d'agrandir et de renouveler des réseaux de correspondants dans l'Europe entière. Mais il faut quand même se dire que ces voyages sont exceptionnels.
C'est pas mais du il en tout, a quand même fait beaucoup.
Lui, il en a fait beaucoup,
ouais.
Mais il est quasiment le seul. Il est le seul à en avoir fait autant. C'est ça, il faut bien se dire.
Ouais.
Pour les autres, c'est un peu différent. Et effectivement, ça donne lieu non seulement à des notes, de la correspondance évidemment, des notes, mais aussi des journaux de voyage qui, édités,
ouais,
comme le voyage en Italie en 1687, deviennent eux-mêmes des livres de documentation.
Ouais.
Hein, voilà.
Alors, est-ce qu'il portait un regard justement d'historien sur ce qu'il voyait, ou est-ce qu'il s'intéressait seulement aux affaires de sa congrégation ?
Non, il porte un regard d'historien parce qu'il découvre des textes, il lit un certain nombre de sources, donc après il va les mettre en relation. C'est ce qui lui permet d'avoir cette vision après, cette vision un petit peu générale de l'histoire du monachisme européen tel qu'il ressort des Acta Sanctorum et puis de ce qu'il fait à la fin de sa vie, ce qu'il commence, c'est-à-dire les annales de l'histoire de l'ordre. Donc ça a des résultats et tout à fait évident.
Est-ce qu'il s'intéressait seulement aux affaires de sa congrégation avec ce regard d'historien, ou est-ce qu'il dépassait ?
Non,
est-ce qu'il arrive dans les récits qu'on a de lui,
de
ses voyages ?
Il dépasse complètement, c'est-à-dire que lorsqu'il est en Italie, il a toujours cette idée d'honnêteté, de recherche de la vérité, ça va lui poser un certain nombre de problèmes, et les voyages sont l'occasion aussi de se rendre compte de certains problèmes qui se posent à son honnêteté d'historien. Et donc, en particulier le voyage en Italie, a des conséquences importantes sur tout simplement ce qu'il écrit lorsqu'il écrit son texte sur les saints inconnus, qui frise la mise à l'index quand même. Donc, que Mabillon soit presque mis à l'index, c'est vraiment que c'était considéré comme grave, parce que c'était en même temps quelqu'un qu'on trouvait tout à fait important et recommandable.
Alors, dans ce voyage à Rome, justement, il s'est aussi intéressé évidemment aux reliques. Et là encore, il a laissé une méthode, enfin, il a voulu qu'on applique à la lettre une méthode. Il a créé de nouveaux critères, non, pour déterminer ce qui était vraiment une relique, si c'était bien une...
Voilà, c'est assez compliqué. En fait,
bonne relique, entre guillemets.
Une bonne relique. Quand il va en Italie en 1686, on l'emmène dans les catacombes romaines. Et puis on lui donne une pioche, et à son compagnon aussi, puis on lui a dit, allez-y, creusez, etc. Bon. Donc il récupère un corps saint, comme il dit dans une lettre, où son compagnon le dit. Et puis après, on leur promet qu'ils pourront l'envoyer, ramener ça à Paris, en envoyer des ossements, etc. C'est toute la question de ces fameux saints inconnus, c'est-à-dire le fait de, dans les catacombes romaines où on pense... où on disait, bon, c'est des chrétiens, donc c'est forcément, comme c'est les premiers siècles, donc c'est des martyrs ou c'est des saints chrétiens, donc ils n'ont pas de nom, on ne sait pas qui c'est. Hein. Donc on prend un tas d'os, ben, excusez-moi, mais ce n'est pas très joli, mais on prend un tas d'os, on les met dans une boîte, on les baptise, enfin on dit que c'est un saint, un tel, et puis on l'envoie dans des diocèses s'il y a besoin ou dans des communautés religieuses. Donc ça, Mabillon, conçoit l'existence de ça. C'est-à-dire que c'est pas un révolutionnaire, c'est pas quelqu'un qui veut casser quelque chose. Donc il conçoit ça. Et puis en 1696, ça fait 10 ans d'écart, il a grandi, je dirais, dans sa recherche de la vérité, et il dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et alors qu'on veut justifier une relique par son ancienneté, par la tradition, on veut justifier l'existence d'un saint par sa biographie, par une vita qui permet de définir qu'il était bien un saint, etc., qu'il a bien existé, on insiste là-dessus et parallèlement, on continue à faire de la distribution de reliques anonymes. Donc là, il crie un petit peu au scandale, poliment. On lui dit à Rome qu'il vaut mieux pas publier ça.
Il risquait gros quand même.
Ah, il risquait gros parce que
là, c'était un peu plus.
Ah ben oui, parce que ça touchait en
délicat,
plus. Ça touchait les pratiques du Saint-Siège. Ben, ça touchait les pratiques romaines.
Alors, comment a réagi le Saint-Office?
Ah, le Saint-Office réagit pas bien. D'abord, il l'envoie à un cardinal Coloredo, qui était un de ses amis romains, et le cardinal lui dit qu'il faudrait faire en sorte de pas publier ça. Ce que vous dites n'est pas totalement faux, mais il ne faut pas publier ça. Évidemment, il laisse publier non seulement en latin, mais aussi en traduction française.
Ah.
Donc, ce qui fait quand même beaucoup de bruit. C'est très apprécié par la France gallicane, hein, évidemment, cette affaire. Et côté romain, évidemment, ça passe devant l'index. Et il y a une négociation, pour qu'il ne soit pas condamné, il y a une négociation où il est obligé de faire une réédition dans laquelle il doit être plus prudent et plus... Voilà. Donc, il fait cette réédition en mettant en valeur plus le rôle du Saint-Siège dans certains décrets qui disaient qu'il faut veiller à pas, etc., à pas faire n'importe quoi. Mais en fait, il reste aussi critique dans le fond.
Alors, il a toujours cet esprit critique en alerte.
Voilà, très...
Toujours. Tout le temps, au cours de ses voyages. Mabillon, quand il ne voyage pas, il écrit. Il a laissé une correspondance extraordinaire, très, très dense. Par exemple, parmi toute cette correspondance, je sais qu'il y en a beaucoup, mais quelle est celle qui a retenu votre attention, qui mériterait d'être présentée à nos auditeurs? Vous allez me dire toutes, tout en leur intérêt, mais bon, pour qu'on ait une idée de ces lettres et de leur style aussi. Enfin, qu'il y a des liens, il y a des gens à qui il a écrit énormément, d'autres très peu. Je crois qu'il avait un souci particulier de répondre toujours à ses lettres.
Oui, Mabillon n'est pas... C'est
une autre partie de la documentation concernant...
Ça devient, en fait.
Ah, ça devient. Ça, c'est, oui.
Pour Mabillon, l'usage de la lettre est un usage finalement relativement lié à des exigences d'érudition et pratiquement professionnelle. C'est quelqu'un qui ne va pas utiliser la lettre, qui ne va pas écrire constamment pour souhaiter une bonne année ou pour un échange de nouvelles systématique. C'est quelqu'un qui est plutôt pour un usage restreint, même s'il reste quand même, sa correspondance active et passive, c'est à l'heure actuelle 3500 lettres, donc c'est pas rien. C'est jusqu'à 500 correspondants à peu près, donc c'est pas rien du tout. Mais ça reste lié à des nécessités. Donc il y a c'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup dans ses lettres. C'est pas quelqu'un. On n'a pas non plus de lettres ou très peu de lettres à des amis, à sa famille, tout ça. Toutes ces lettres ont existé sans doute, mais ont disparu. Donc on a des lettres très érudites. Et par rapport à certains de ses compagnons qui sont plus amusants dans leurs lettres, etc., lui est vraiment très, très sobre. Très sobre et toujours concentré sur son objectif, en fait, de travail intellectuel, tout simplement. Donc évidemment, les lettres avec certains érudits italiens sont sans doute parmi les plus...
On sent quel est ceux avec qui il a une affinité, j'imagine, intellectuelle.
On sent des gens comme Magliabecchi ou le cardinal Coloredo. On sent une proximité, on sent de vraies proximités. Mais il n'y a pas de débordement ou il n'y a pas de correspondance pour le plaisir, je dirais, pour le simple...
Pas encore l'usage aussi, peut-être.
Oui, d'autres érudits écrivent au-delà de nécessité, s'échangent. C'est quand même une des fonctions de la correspondance dans la République des Lettres, c'est cet échange de nouvelles littéraires, de nouvelles du monde, etc. Mais Mabillon est un moine et dans les textes normatifs de la congrégation de sa mort, il est très clairement dit qu'il ne faut pas bavarder dans la lecture. C'est pareil que de rompre le silence, dans l'écriture, je veux dire. C'est pareil que de rompre le silence. On peut le rompre à l'écrit aussi, le silence. Donc il faut écrire quand on a une nécessité. Et Mabillon est tout à fait dans ce cadre-là. C'est pour ça que Mabillon est peut-être même d'abord moine avant d'être historien.
Voilà. Alors justement, Mabillon était-il un moine heureux ? Il s'est exprimé disons, ce que devrait être un moine, ou pour lui, il a une vision particulière.
Oui,
Mabillon... Il a voulu un petit peu répondre à Rancé sur ce point,
oui, tout à fait.
Qui était un petit peu moins drôle.
C'est deux visions totalement différentes.
Il a proposé une nouvelle approche de la vocation monastique, peut-être.
Oui, où il l'a recentré sur un certain nombre de principes. Mabillon est je pense, a été un moine très heureux. Ouais. C'est un homme d'un équilibre parfait. Et je pense que pour être un moine heureux, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il faut être particulièrement équilibré. C'est un homme très, très, très modéré, très équilibré. C'est quelqu'un qui a été triste au moins une fois, vraiment triste. Vraiment triste, et c'est extrêmement attachant. C'est ce qui l'a conduit à écrire ce très beau texte sur les prisons, Réflexion sur les prisons dans les ordres monastiques, qui est un texte très, je dirais pas autobiographique, parce que lui... en tant que tel, n'a pas été concerné par le problème, mais pratiquement, puisqu'il a essayé par tous les moyens de sauver un jeune moine qu'il aimait beaucoup et qui manifestement avait fait n'était pas fait pour être moine, avait des problèmes. Et donc, il a essayé de le sauver à plusieurs reprises de la prison, de l'enfermement complet, en disant qu'une fois, lorsqu'il s'était échappé du Mont-Saint-Michel, dans les prisons du Mont-Saint-Michel, il a dit oui, mais je le comprends très bien. Il s'élève contre le traitement totalement inhumain et détaché de toute miséricorde des fautes de certains moines. Il s'élève contre le traitement de ces moines en difficulté. Et il dit tout simplement que quand un corps est malade, on lui donne des remèdes, et quand c'est l'esprit, on le met en prison. Et ça c'est quand même une très grande phrase. Enfin, bon, je l'actualise un peu, mais le principe est là. Et là, c'est là où on voit tout l'humanisme, en fait, de Mabillon et une fois de plus, sa modernité.
Alors, on trouve souvent une image, un portrait de Mabillon qui est toujours la même dans les différentes éditions. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette image ? Il porte la robe. D'où vient-elle ?
Alors c'est un des portraits les plus fidèles qui a été fait de Mabillon. On le voit assez d'âge tout à fait mûr, hein, plutôt vieillissant, mais effectivement dans sa coule monastique et avec ce petit sourire et ses fossettes qui le rendent très très attachant et un regard très humain et
vous parliez de son humanisme
et d'une vraie humilité. Je pense que ce que Mabillon est un homme d'une grande humilité.
J'allais vous demander justement qu'est-ce que représentait l'humilité pour lui.
Si, l'humilité de Mabillon, c'est à mon avis son grand respect de la vocation, des principes de la vie monastique, son souci de l'obéissance, de la vérité, du respect même des gens qui pouvaient l'attaquer. C'est-à-dire, Mabillon et Rancé se disputent. Une polémique autour de la place des études dans la vie monastique. Et il y a eu des échanges extrêmement durs entre des gens à côté de Rancé, pas Rancé lui-même forcément complètement, mais des gens à ses côtés et d'autres bénédictins à la Congrégation de Saint-Maur qui défendaient la Congrégation de Saint-Maur. Des échanges personnels très durs, de violence verbale qui est pas très monastique. Et Mabillon se détache complètement de ça quand il écrit son traité des études monastiques. Et finalement, effectivement, Mabillon et Rancé se retrouvent, s'embrassent, etc. Après, voilà.
On a d'autres portraits de Mabillon ?
Alors, il y a en particulier un autre portrait gravé comme ça, qui est tout à fait proche de celui-là, que l'on dit encore plus proche de la vérité, mais ils se ressemblent énormément. Il n'y a pas beaucoup de portraits.
Il est représenté comme le modèle de...
Le modèle du moine en train d'écrire avec 2-3 livres derrière.
Voilà.
Oui, c'est le...
Alors, est-ce qu'il est un... Bon, bien entendu, Mabillon est-il un symbole ? Bon, là, on vient de voir un petit peu son portrait, mais aussi, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image de Mabillon sur la durée des 3 siècles qui nous séparent de sa disparition. Quelle image ont eu, justement, ses successeurs, moines et historiens, d'ailleurs ? Quelle image a-t-on eu de lui ?
Alors, on peut faire les choses de la façon suivante. C'est-à-dire, côté monastique, proprement bénédictin, dès qu'il est mort, tout de suite, il y a eu une biographie qui a été faite par un de ses fidèles, ses disciples, dont Thierry Ruinart, qui est lui-même un grand érudit. Donc il y a une façon de montrer le modèle, en fait. Le modèle d'un monachisme éclairé, d'un monachisme du XVIIIe siècle. Ça, c'est une chose. Au XIXe siècle, il deviendra aussi un modèle pour Don Guéranger, lorsqu'il restaure à Solesmes la vie monastique et la vie bénédictine. Et puis, il deviendra, au moment de la querelle en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il est aussi, pour les moines, un flambeau de l'intelligence de l'Église et du monachisme et de l'apport, etc., dans ce cadre-là. Donc, c'est dans un cadre très polémique. Il devient pratiquement une arme, quoi.
Bon. On se l'approprie.
Bon. Et puis, les historiens, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Le fait qu'il soit entré à l'Académie, le rôle après lui des travaux de ses successeurs en particulier, qui se réfèrent à Mabillon, le fait que l'Académie se réfère aussi plusieurs fois de l'héritage mabillonien, au XIXe siècle, on le disait tout à l'heure, dans le Nouvel Institut, dans l'Institut de France, il y a cette tradition est reprise. L'École des Chartes, tous les historiens du XIXe, positivistes ou pas, invoquent Mabillon jusqu'à Marc Bloch. Marc Bloch qui en parle très souvent, qui rend hommage à ce souci de justice historique, enfin d'honnêteté, de tout ça. Et donc il y a ce symbole là et le fait qu'effectivement il y a la station de métro et c'est pas inintéressant non plus. Ce n'est pas par hasard non plus. C'est une réalité. Bon. Est-ce que pour cela, il est très connu du grand public ? Évidemment, ça, c'est un autre problème.
Alors, il y a une biographie célèbre qui est d'ailleurs que vous avez rééditée là, dans le Don Mabillon de la collection Bouquins, celle de Don Leclerc. Parce qu'elle fait date.
Oui, elle fait date et c'est pour ça qu'on a choisi de la reprendre à défaut d'en faire une nouvelle. Parce que d'abord, elle a un sens dans l'histoire de la transmission de l'image de Mabillon.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant. C'est que Don Leclerc, qui est mort juste avant ou tout début des années 40, enfin non, 1940, est devenu moine en fait. Parce qu'il voulait être un des derniers disciples de Mabillon. C'est-à-dire que, bon, il avait sans doute un très bon chrétien, c'est pas le problème, mais c'est vraiment ça, il le dit. Et il a eu des problèmes parce que son abbé, tout ça, l'ordre bénédictin, peut-être avait senti qu'il était moine d'abord parce qu'il y avait Mabillon par le côté intellectuel plutôt que par le côté de vie monastique, toute sa dimension spirituelle, enfin, etc., communautaire. Donc il a eu des problèmes. Et donc il s'est complètement concentré sur cette œuvre. Donc on l'a effectivement remise dans le livre de la collection bouquin, mais on a enlevé parce que c'est très gros. Donc en fait, je l'ai retravaillé en gardant que le fil conducteur chronologique de la vie de Mabillon et en enlevant tout ce qui était description des ouvrages de Mabillon, puisque de toute façon, ça pouvait faire double emploi avec mes introductions qui suivent l'édition des textes de Mabillon. Voilà.
Son actualité dans le cadre de la commémoration du tricentenaire de sa disparition a-t-elle permis justement aux historiens d'aujourd'hui, par les recherches et les différents colloques, de porter un regard neuf sur l'érudition de ces ordres monastiques ?
Mais je crois qu'on a voulu... On aurait pu faire des colloques avec Mabillon historien, Mabillon liturgiste, Mabillon machin, etc. Bon. Et ce à quoi je tenais personnellement, c'est de croiser les regards. Comme Mabillon a une postérité, une transmission, a été critiqué, il fallait essayer de voir dans quel cadre, comment, sous quelle forme cette transmission, ce regard, etc., s'était fait depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un colloque avec des pistes très différentes ici à l'Institut. Voilà.
Et quelles conclusions, justement, on peut en tirer ?
Je pense qu'on a mieux compris, on comprend mieux la modernité de l'homme. C'est-à-dire qu'on a à la fois, réinséré Mabillon dans son contexte, c'est-à-dire de pas oublier que Mabillon n'est pas le seul érudit du XVIIe siècle. Il y en a des extraordinaires à côté de lui, des Lenain de Tignemont, des tas de gens, les Bollandistes. Enfin, comprendre qu'il n'est pas né érudit, qu'il y a une formation, tout ça. Et puis, dans l'histoire culturelle de tous ces siècles, il y a des hommes qui percent à un moment plus parce qu'ils ont, ils ont ce génie supplémentaire. Donc, je crois que ça, on l'a mieux compris. On a mieux compris aussi que la congrégation de Saint-Maur, ce n'est pas 9000 Mabillon en 150 ans. D'accord. Que ce sont d'abord des moines, et que Mabillon est d'abord moine, et que parmi ceux-ci, il y en a un petit nombre qui fait ce travail quasiment professionnel, et que ce petit nombre a finalement façonné l'image entière du bénédictin érudit, puisque c'est de cette époque qu'on parle depuis cette époque qu'on parle de travail de bénédictin dès qu'on travaille un peu en profondeur ou sur des sources complexes. Donc voilà, je crois que ça on a mieux compris.
Alors que reste-t-il à découvrir sur Mabillon ?
Ben, plein de choses. Il reste les 3500 lettres que je suis censé essayer de publier, mais c'est un travail collectif et très
et colossal.
Et important, mais bon, comme tout, ça, c'est, à la limite, je suis payé pour. Il reste sans doute d'approfondir encore sa dimension, son écriture de l'histoire. Je pense qu'on peut aller encore plus loin en comparant encore mieux les textes qui lui ont été opposés, par exemple. Il faut qu'on travaille encore plus sur les critiques faites à Mabillon.
D'accord.
On a tendance à se mettre trop du côté de Mabillon. Il faudrait travailler beaucoup plus ceux qui ont critiqué. Il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est ça.
Écoutez, Audon Hurel, merci beaucoup. Finalement, Mabillon est devenu un symbole, une image, mais c'est aussi un modèle. C'est le modèle de l'homme docte, repris bien avant le XXe siècle, bien sûr, par La Bruyère. Il pensait à Mabillon, La Bruyère, quand il établit ce modèle. Et Mabillon qui ne voulait pas... Qui combattait un peu les modèles et finit en modèle.
Oui, je sais pas si... Franchement, il est un modèle. Moi, je vois dans la façon de garder une cohérence, par exemple, dans ses travaux. Nous-mêmes chercheurs, on peut être amené à se disperser, c'est facile. Donc, rester cohérent dans ce travail, ouvert aux autres travaux, à comprendre qu'il faut toujours déconstruire une historiographie, ce qui ne veut pas dire la mépriser surtout. C'est ça aussi une force de Mabillon. C'est-à-dire, il ne dit pas tout ce que les moines ont raconté avant moi, ce sont des sottises. Il dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ou ils étaient dans un contexte qui faisait qu'ils ont écrit ça. Mais ça existe. Bon, moi, je dis que ce n'est pas bon, mais n'empêche que ça fait partie de la transmission du savoir. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui est très modèle pour ça, qui est une référence.
Jean Delumeau, l'autre jour, sous la coupole, évoquait la figure de Jean Mabillon. Et je cite, disait « Il reste pour nous l'homme qui nous a pris il y a 300 ans à lire le passé avec amour, science et rigueur. La Bruyère semble avoir pris de Mabillon comme modèle de l'homme docte lorsque dans ses caractères il décrivit celui-ci comme une personne humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit durant toute sa vie. » Alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se plonger dans la lecture des œuvres de Mabillon grâce à Odon Hurel et également aux éditions Robert Laffont. C'est Le Moine et l'historien Dom Mabillon, œuvre choisie, préfacée d'une biographie par Don Henri Leclerc. Donc l'édition a été établie par Odon Hurel. Retrouvez aussi quelques-unes des communications du colloque que nous avons évoqué, du colloque de décembre dernier de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, que nous avons enregistré, écoutez-les, en vous branchant soit sur notre site ou bien en les téléchargeant. Profitez de ces émissions pour découvrir à la fois les textes de Mabillon, ceux d'Odon Hurel, et puis aller visiter l'église de Saint-Germain-des-Prés. Promenez-vous sur les hauts lieux du monachisme bénédictin en la compagnie de ce bel ouvrage. Merci Odon Hurel.
Merci.